J'ai pensé célébrer un saint orthodoxe. Oui, un saint orthodoxe décédé en 1908 et qui a été canonisé par l'Église russe orthodoxe, Saint Jean de Kronstadt. C'est un saint extrêmement attachant, extrêmement intéressant. Et je dédie cette émission à notre metteur en ondes et grand spécialiste de la technique à Radio Ville-Marie, Monsieur Diouskine, Nikolaï Diouskine, dont vous entendez le nom souvent, puisqu'il est russe orthodoxe et qui nous rend de grands services. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Jean de Kronstadt était prêtre. Il est né le 18 octobre 1829. Il est décédé à 79 ans, le 20 décembre 1908. C'est pourquoi je le célèbre aujourd'hui. Mais sa fête chez les Russes orthodoxes est le 1er novembre. De son nom de naissance, il s'appelait Ivan Ilitch Sergiev. Il est né dans la soirée du 18 octobre 1829 dans le petit village de Sura. C'est à 300 milles de ce qu'on appelle la mer Blanche. C'est un immense golfe de l'océan glacial arctique au nord de la Russie. C'est immense. Ça a 120 000 kilomètres carrés, ce golfe. C'est donc beaucoup plus grand que le lac supérieur. C'est une fois et demie la grandeur de notre lac supérieur. Et c'est gelé 7 à 8 mois par année. Ses parents le font baptiser le soir même. Il naît le soir et il est baptisé le soir même. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'il ne vivrait pas. Alors, ils lui ont donné le prénom du saint du jour, Saint Jean de Rila, un moine bulgare. J'en profite pour saluer Tania Gancheva, qui est bulgare, qui met en onde cette émission aujourd'hui. Et comme la journée liturgique orthodoxe commence avec les vêpres et se termine l'après-midi suivante, c'est la même chose chez nous. Eh bien, la fête principale de Saint-Jean de Kronstadt tombe le 1er novembre. Et le père d'Ivan était un simple lecteur de paroisse. Mais son grand-père, puis tous ses ancêtres, étaient prêtres depuis 350 ans au moins. Ça me rappelle le père Popescu, un prêtre roumain orthodoxe de Montréal, qui était, je crois, le 9e prêtre en ligne dans sa famille. Il m'avait parlé de ça un jour, il y a bien des années. Les églises étaient le centre d'une vie marquée dès le plus jeune âge par tout le rythme des fêtes orthodoxes et puis des jeûnes. Et c'est ainsi que cet enfant-là, dès l'âge de 4 ans, eh bien, était habitué à la prière liturgique, mais aussi à la prière personnelle. D'ailleurs, Saint Jean de Kronstadt a eu, parce qu'il a changé de nom, Saint Jean de Kronstadt a eu une fille spirituelle importante, c'était l'abbesse Taïsia. Elle a déjà relaté un incident de son enfance. Elle dit, une fois, il vit une lumière extraordinaire. Bania a vu une lumière extraordinaire dans la chambre. Alors, il regarda, puis il vit dans la lumière un ange dans sa gloire céleste. Et le petit garçon, troublé par l'ange, le calma. C'est l'ange qui l'a calmé, n'est-ce pas, en lui disant qu'il était son ange gardien. Alors, notre ami Ivan, ou si vous préférez Jean de Kronstadt, qui sera son nom un peu plus tard, apprend très lentement. Puis à 5 ans, on lui donne un livre de lecture. Mais il n'arrive pas à comprendre l'étrange relation qui existe entre des lettres écrites sur le papier puis les lettres parlées. Il fait pas le lien. Alors, il se met à prier avec ferveur pour cela. Je vous ai dit qu'il priait déjà depuis l'âge de 4 ans avec ferveur. Alors, ça a été soudain comme si un voile était enlevé de devant ses yeux. Puis il a commencé à comprendre ses lettres. Est-ce que on ne devrait pas faire la même chose quand on lit à la messe les lectures, prier avec ferveur pour que les lettres dont nous prions en Église deviennent tout à coup des paroles au fond de notre cœur, par l'Esprit Saint, et que le voile, comme il est dit ici, s'enlève de devant nos yeux, et que cette parole devienne un souffle vivant en nous. Il a commencé, ce jeune homme, ses études, a fait 12 années de scolarité. Et ça a pu consoler bien des parents, il était dernier de classe. Dernier de classe. Et il a eu assez rapidement une expérience de libération dans ses études, encore après d'ardentes prières. Si bien que il s'élève lentement, il avance, il n'est plus dernier de classe, il s'approche du premier, puis quand il sort du séminaire, il est le premier de sa promotion. Pendant quelque temps, il a une épreuve. Il doit diriger la chorale du séminaire, mais c'est plus une épreuve. Les chanteurs étaient des élèves extrêmement indisciplinés. L'influence la plus grande qu'il a reçue pendant ses années d'adolescence, c'est surprenant ce que ça a été. Il avait copié lui-même, de sa main, une traduction russe du Nouveau Testament. Et puis, beaucoup plus tard, il a raconté à l'abbesse dont il a été question, là, sa fille spirituelle, Thaïsia. Il disait, « Ce Nouveau Testament, écrit de ma main, a été le compagnon de mon enfance. Il a été mon tuteur, mon guide et mon consolateur. » En 1851, donc il a 22 ans, avant que Ivan, c'était son nom à ce moment-là, rejoigne l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg, si on préfère la faculté de théologie, comme il y a une faculté de théologie à l'Université de Montréal, bien, l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg, mais c'était pour la formation des prêtres, donc le grand séminaire, si vous voulez. Eh bien, son père meurt et laisse sa mère et ses deux sœurs sans ressources. Alors, il est obligé de prendre un emploi de secrétaire à l'Académie, justement, théologique de Saint-Pétersbourg, tout en préparant son diplôme. Pendant 4 ans, il envoie à sa famille les 10 roubles qu'il gagne chaque mois. C'est pas énorme. À cette Académie, Saint-Jean de Kronstadt, de son nom à ce moment-là, Ivan, acquiert plusieurs habitudes qu'il va garder toute sa vie. La première de ses habitudes, et c'est très intéressant, c'est de prier en plein air dans le jardin. Prier en plein air, c'est bon pour l'âme et le corps. Deuxièmement, lire la Bible. C'est élémentaire. Troisièmement, lire les sermons de Saint Jean Chrysostome sur les évangiles. Ils sont très beaux. Et quatrièmement, lire les sermons du patriarche Philarète de Moscou. Si c'est le Philarète de quelques siècles plus tôt, c'était un patriarche qui a cherché à conserver à l'Église orthodoxe russe ses caractères liturgiques très orthodoxes et aussi sa théologie orthodoxe, de crainte que les influences de l'Église latine qui se faisaient ressentir à l'époque à travers la France, l'amour du français, les influences de la culture française, afin de préserver, en somme, l'Église orthodoxe. La théologie de Saint Jean de Kronstadt peut être résumée très brièvement. C'est très intéressant, c'est très simple. À travers son souffle, l'Esprit Saint, la parole, c'est-à-dire, pour être plus simple, pour ceux qui auraient de la difficulté à comprendre ça, la parole, c'est évidemment, ben vous le savez tous, c'est la Bible. Ce sont les lectures que l'on fait durant la messe. C'est la parole. Hein? La parole est active, dit-il, à travers son souffle, l'Esprit Saint. La parole est active dans l'Église, unifiant l'humanité et réalisant la venue du royaume de Dieu. Et par la foi, les chrétiens doivent laisser la parole de Dieu informer leurs propres paroles, c'est-à-dire transformer, sculpter, faire grandir leurs propres paroles. Il doit vivre sous la puissance de l'Esprit-Saint. Si le Christ qui est la parole de Dieu, si les évangiles informaient nos propres paroles, si tout ça transformait notre intérieur, notre intelligence, notre mémoire, notre souffle intérieur, nous devrions tous être des témoins, d'abord par nos actes, par un sens de la justice dans la société, par l'amour, mais aussi par le témoignage en parole. Il disait, Saint Jean de Kronstadt, pour être en union avec Dieu, pour n'être qu'un seul esprit avec lui, il nous faut acquérir par sa grâce la simplicité la plus parfaite de la bonté, la sainteté et l'amour. Au milieu du 19e siècle, l'Église orthodoxe russe avait organisé des missions considérables parmi les populations non chrétiennes de Sibérie. Alors, Ivan Sergiev, ou Jean de Kronstadt, envisage sérieusement de rejoindre cette région missionnaire en tant que moine-prêtre. Et durant la dernière année de ses études, il est atteint d'une grave dépression. Une dépression qu'il va réussir à surmonter encore une fois par la prière. C'est la prière qui le transforme constamment. Il prend conscience du manque de connaissances chrétiennes, puis de la superficialité de la foi de beaucoup de gens dans la capitale, Moscou, puis aux alentours. C'est une des choses les plus tragiques des jeunes prêtres aujourd'hui qui sont ordonnés de prendre connaissance, comme ça, du manque d'instruction chrétienne, du manque de formation, de la superficialité de la foi de ces jeunes couples qui viennent demander le baptême de leurs enfants. C'est un drame actuellement. Il est ensuite invité à prendre charge de la paroisse de Saint-André dans la ville de Kronstadt, d'où va venir son nom, Saint-Jean de Kronstadt. C'est sur l'île de Kotlin, dans le golfe de Finlande. Et quand il visite l'église, il reconnaît très nettement l'intérieur du bâtiment qu'il avait vu tout à fait là, dans un rêve. Quelques jours après son ordination, le père Ivan Sergiev, Jean de Kronstadt, célèbre sa première divine liturgie, comme on dit, en langage orthodoxe, dans l'église Saint-André. Il prêche sur le texte de Saint Jean, au chapitre 21, verset 15. Jésus dit « Paix, mes agneaux ». C'est une parole que Jésus adresse à Saint-Pierre. Alors il fait un parallèle dans son sermon entre le besoin de Saint-Pierre, nous que nous considérons comme le premier pape, d'être réintégré comme apôtre, vous savez, après son reniement de Jésus au moment de la Passion, puis sa propre indignité en tant que pasteur, pauvre Saint-Pierre, ce qu'il a dû souffrir. Alors, Saint-Jean de Kronstadt dit, « Les paroles du Seigneur ont aussi atteint les oreilles de mon propre cœur, m'ordonnant de vous nourrir, vous, ces agneaux spirituels. » Alors, il souligne le fait que c'était l'amour pour Dieu et pour les hommes, baptisé par le souffle du Saint-Esprit, qui pouvait le rendre digne du sacerdoce. Et pendant 54 ans, la compréhension puis l'accomplissement de son appel par le pouvoir de la grâce ne changeront jamais pour ce prêtre. La ligne droite de sa vie coïncide avec le titre qu'il donne à son livre principal, « Ma vie en Christ ». Et puis, il a très tôt la compréhension de la force, de la simplicité, caractéristique majeure de Dieu et signe de sainteté. Et peu de théologiens de pasteurs l'ont compris comme lui. Et il disait, l'effet purifiant de la grâce change la perception que les gens ont des mots et leur fait prendre conscience. De quoi? De la relation qui existe entre la faculté humaine du langage et la personne du Christ, Dieu le Verbe. Avant la liturgie quotidienne, les jours de la semaine, on chantait les matines dans l'église Saint-André. Et le père Jean de Kronstadt lisait les versets du canon. Et vivant fortement la présence du Saint-Esprit, il ne psalmodiait pas. Mais Il lisait en appuyant les mots importants. Quelquefois, il se tournait vers la paroisse, puis il lui adressait le texte personnellement. Et la joie rayonnait de son visage quand il proclamait les victoires de Dieu puis les victoires des saints. Et la tristesse accompagnait ses références au péché. On sentait même parfois sa colère lorsqu'il mentionnait le diable qu'il détestait. Saint Jean de Kronstadt manifestait par son comportement à l'Église que les offices liturgiques sont une participation réelle aux interventions passées, mais éternellement vivantes de Dieu dans l'histoire de l'homme. Il disait d'ailleurs, « De toute parole est Dieu le Verbe. Dans toute parole est Dieu le Verbe, l'être incomplexe. » Avec quelle attention devons-nous donc prononcer les mots? Et avec quelle humilité, quelle prudence, afin de ne pas offenser Dieu le Verbe en même temps que le Père et le Saint-Esprit? Il disait aussi, « Merveille-toi, chrétien, de la sagesse, de la puissance et de la miséricorde du Créateur. Il change et transforme le pain en son corps très pur. Il vient lui-même demeurer en eux par son très Saint-Esprit vivifiant, de sorte que son corps et son sang soient en même temps esprit et vie. Et pourquoi cela? Pour te purifier, pécheur. Pour te purifier de tes péchés, te sanctifier et t'unir, et ainsi sanctifier et ainsi uni à lui, t'accorder la béatitude de l'immortalité. » Alors quand le cœur chantait les versets des laudes, le père Jean de Kronstadt venait lui-même diriger et entraînait la chorale au rythme et à l'interprétation de la musique en s'attachant beaucoup au sens des mots. La proscomidia, qui est le rituel de la préparation des saintes espèces, le pain et le vin, avant la liturgie dans l'Église orthodoxe, vous savez, le prêtre va à gauche, il y a trois autels, hein, puis il va à l'autel de gauche qui est l'autel pour la préparation. Alors, la proscomidia était pour lui le prélude de la transformation du pain et du vin par l'Esprit-Saint en corps et sang du Christ. Il traitait l'agneau, comme on dit, comme le corps véritable du Christ. L'agneau, c'est-à-dire cette offrande, il la traitait comme le corps véritable du Christ. La patène avec les particules du pain était pour lui une expérience dans la foi du vrai rassemblement autour de Jésus de tous les membres de son corps au ciel et sur la terre. Et d'autre part, il souffrait presque de scrupules, la tiédeur ou une légère perte de concentration pendant un office ou dans la prière était pour lui un péché grave qu'il appelait souvent de l'hypocrisie. Car il disait que c'était faire semblant de servir le Seigneur. Mais c'est inévitable. Je pense bien que tout le monde est à un moment donné un peu distrait. C'est pas faire semblant de servir le Seigneur. C'est d'être enfermé dans notre condition humaine. Mais il disait quelque chose de merveilleux. Par aveuglement, nous traitons avec négligence les paroles de l'Esprit-Saint qui souffle dans les prières, les sacrements et les offices. C'est un grave péché, parce qu'en célébrant les sacrements légèrement, nous bafouons et nous nous moquons des dons sacrés du Seigneur. Je trouve ça si beau que je le répète. Je m'en excuse. Par aveuglement, nous traitons avec négligence les paroles de l'Esprit-Saint qui souffle dans les prières, les sacrements et les offices. C'est un grave péché, parce qu'en célébrant les sacrements légèrement, nous bafouons et nous nous moquons des dons sacrés du Seigneur. Il faudrait inscrire ça en lettres d'or à l'entrée de nos églises. Les symboles étaient importants pour lui. Puisque l'encensoir représente, vous le savez tous, nos prières, la fumée de l'encens monte vers Dieu comme nos prières montent vers lui, Dieu notre Père. Il voulait que les charbons dans l'encensoir, d'autre part, soient rouges et ardents. Pas des petits charbons que quand on met de l'encens dessus, il se passe rien. Non, non, non. Il voulait des charbons rougeoyants et ardents. Ça, j'ai appris ça quand j'étais turiféraire. Turiféraire, c'est celui qui porte l'encensoir, qui le prépare, à Saint-Benoît-du-Lac, où on tenait beaucoup chez les bénédictins à ce qu'il y ait de l'encens, puis que il y ait vraiment de l'encens et que ça monte. Alors, il voulait ça parce que, pour lui, le cœur des fidèles présents dans l'Église devait être tout aussi brûlant d'amour pour Dieu que les charbons ardents. Il célébrait la liturgie, la messe, dans une profonde concentration. Il récitait toutes les prières par cœur, les yeux fermés. Sinon, prêtres, comment se fait-il qu'ils ne savent jamais les prières par cœur? On voit jamais de prêtres qui récitent les prières par cœur. Nos acteurs récitent du Michel Tremblay ou du Molière ou je ne sais quoi, des textes très longs. Ils les jouent pendant quelques temps, quelques semaines, puis ils en apprennent d'autres, puis on les revoit sur la scène, puis ils savent par cœur tout leur rôle. Ils font ça toute leur vie. Il me semble que certains prêtres qui ont une bonne mémoire, sont encore jeunes peut-être, pourraient prendre ça par cœur et prier vraiment, les yeux fermés ou levant les yeux au ciel, et ces prières sortiraient de leur cœur plutôt que d'un livre qu'on lit. Peut-être, peut-être que j'imagine des choses qui sont impensables. Il prononçait tout distinctement, puis faisait jamais traîner les offices quand même. Puis il baisait la croix, Ils ont une croix qu'on prend dans la main, les orthodoxes, lorsqu'il y était fait référence à la passion du Seigneur. Il disait d'ailleurs, la prière de foi est pour l'âme ce que la respiration est au corps. En nous souvenant que le Tout-Puissant est toujours avec nous, et en l'ayant réellement dans nos pensées, en chassant de nos cœurs toutes les pensées de ce monde, les doutes, les soucis, les attachements, nous accomplissons toujours dignement l'œuvre de Dieu. Les hypocrites chrétiens d'aujourd'hui pensent-ils qu'ils prient et vivent d'une manière hypocrite? Non, ils ne le pensent pas. Ils prient par habitude avec leurs lèvres, mais pas avec leur cœur, sans présenter vraiment de contrition, sans désir ferme de vraiment s'amender, mais seulement pour appliquer la règle établie. Bien, c'est triste. Saint Jean de Kronstadt exigeait que le lecteur proclame l'épître et que le diacre proclame l'évangile afin de toucher tous les cœurs dans l'Église. Ça se lit pas n'importe comment, comme un article, de la page des affaires ou des mouvements économiques. Après l'évangile, il ajoutait cette prière. C'est très beau, cette prière qu'il récitait après l'évangile. Seigneur, beaucoup de ceux qui sont actuellement dans cette église ont le cœur vide comme des récipients vides et ne savent pas pourquoi prier. Alors remplis leur cœur maintenant, en ce jour du salut, avec la grâce de ton Esprit très saint. Accorde à ma prière qu'il soit imprégné de la connaissance de ton Esprit saint, qui intercède lui-même pour eux avec des mots que les gémissements ne peuvent exprimer. C'est que la liturgie était pour lui le cœur du combat spirituel que le Seigneur lui avait confié le jour de son ordination. Je répète ça pour tous les prêtres qui m'écoutent. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui m'écrivent et qui me téléphonent et qui me disent des choses si aimables et si encourageantes. La liturgie, la messe si vous voulez, était pour lui le cœur du combat spirituel que le Seigneur lui avait confié le jour de son ordination. Une fois qu'il avait dit les paroles de l'hymne des chérubins, il se perdait dans le mystère de la souffrance du Christ. Puis au baiser de paix, il disait, au lieu de dire la paix du Christ, c'est très beau, il dit, le Christ est parmi nous vivant et agissant. Que c'est donc vrai et que c'est donc beau, Le Christ est parmi nous vivant et agissant. Je ne sais pas si on ne devrait pas, dans notre liturgie à Rome, décidé de changer ses paroles. Ce serait beaucoup plus vivant et intéressant, il me semble. Après le credo, il disait « Affermis dans cette foi tous les chrétiens orthodoxes. Unis dans cette même foi toutes les communautés chrétiennes qui se sont, de façon si désastreuse, écartées de la Sainte Église, orthodoxe, catholique et apostolique, attire dans cette même foi tous les peuples de la terre. » Oui, nous devons prier pour l'unité. Invoquons Saint Jean de Kronstadt, ce grand prêtre orthodoxe, pour que nos grandes églises orthodoxes et catholiques retrouvent l'unité perdue depuis l'an 1056.